Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie, et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel, ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Alexis, comment ça va ?
Salut, ça va bien, ouais.
Tes potes t'appellent Alex ou Alexis ?
Quand j'étais petit, plutôt Alex, maintenant plutôt Peintu.
Ok, Peintu.
Donc ça a un peu varié, c'est-à-dire qu'au début c'était plutôt mon prénom, la base, maintenant c'est plutôt mon nom, ouais.
Ok, ça marche, ouais, mais je connaissais pas ce petit surnom sur toi. Et je demandais parce qu'un de mes meilleurs potes s'appelle Alexis et tout le monde l'appelle Alex, donc.
Ouais, bah ça.
Si je t'appelle Alex,
ça reste encore.
Bon, bah cool. Écoute, je suis ravi vraiment d'être là aujourd'hui, tu vois, quand Manon m'a proposé qu'on se rencontre, je me suis senti très touché parce que t'es un des skieurs que je préfère regarder
et pourtant c'est pas forcément facile de nous voir à la télé ou quoi, mais
ouais, mais je suis
donc je suis heureux de l'entendre, ouais.
et puis t'es la légende du ski français aussi, tu vois, je pèse pas mes mots en tout cas quand je le dis, tu vois. Et ça me fait plaisir de le dire, t'es le français le plus titré, le premier à avoir obtenu le gros globe. Alors il existe depuis 5-6 ans, c'est ça, pas plus?
Non, le gros globe ça fait depuis longtemps.
C'est les petits globes qui ont été créés après.
Ouais, les petits globes ont été créés bien après, mais par contre le gros globe existe depuis très longtemps, les petits globes existent aussi depuis longtemps. Mais moi, je suis réellement le quatrième français à l'avoir gagné. Ouais. Le troisième homme qui a eu le premier, ça a été Jean-Claude Killy et Luc Alphand.
Bien sûr.
Et puis maintenant, ça fait surtout 20 ans en fait que en France, il n'avait pas été gagné.
Ouais, ouais, surtout
par
ça.
Par un français.
Voilà. Donc ouais, on va parler de records aujourd'hui. On va parler aussi de comment se renouveler quand on a tout gagné. Et comment est-ce qu'on fait pour rebondir. Et on parlera bien sûr de ton livre qui sort dans quelques jours. Alors on est début octobre là et il sort le 19, c'est ça?
C'est ça, le 19 octobre. Ouais.
Voilà, donc je suis content de faire partie de cette promotion et tu me raconteras un peu comment ça se passe. Donc il y a plein de sujets, tu vois, je t'ai dit ça allait être riche, mais la première question que je pose en toute détente, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Premier souvenir de sport, je dirais pas forcément que c'est un souvenir de sport à part entière, c'est plus un souvenir de je suis dans la voiture, je suis avec mon meilleur ami d'enfance et on va au foot. Sauf que moi j'ai déjà fait du foot, Ouais. Et mon copain, en fait, je l'initie. C'est-à-dire que je l'emmène pour sa première fois au club de foot. Mais on a, du coup, on doit avoir 7 ans, 6 ans, en fait, les premiers âges pour attaquer vraiment le club, quoi.
Ouais.
Et c'est un moment qu'on connaît tous. C'est le moment où on est tous un peu stressés. On est jeunes, on est stressés. C'est notre première fois. On va au stade ou on va à notre club pour la première fois. Donc, on sait pas trop si ça va nous plaire. On sait pas trop si les coachs vont nous plaire, si les autres copains vont nous plaire et si on va se sentir finalement à l'aise. Mais c'est toujours un moment où derrière on se régale et les valeurs du sport l'emportent. Et moi, en tout cas, j'ai vécu beaucoup ce phénomène-là parce que j'ai fait beaucoup de sport dans ma carrière. Et y a toujours le moment d'hésitation, le moment où on se dit « Ah non, j'ose pas trop parce que je connais pas et puis j'ai peur d'aller alors que je connais personne. » Alors qu'en fait, c'est toujours vachement vite effacé au profit de tout ce qu'on partage, quoi.
Ouais, exactement, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours l'appréhension un peu sociale plus, tu vois.
C'est ça, ouais. En fait, on a peur un peu de savoir déjà d'une si on va être un peu à la hauteur. On a peur de savoir si ça va nous plaire. On a peur de la réaction des autres, etc. Ouais.
Ah ouais, j'imagine. Et t'en as fait combien de temps du foot?
Longtemps. Du foot, c'est le sport que j'ai fait le plus longtemps avec le ski alpin. Et puis après, il a fallu que je choisisse entre le foot et le ski. Et donc, je suis parti dans le ski, mais jusqu'à du coup l'âge de rentrer au lycée, donc jusqu'à 16 ans.
15 ans. Ouais. Ok. Wow, bah écoute, je savais pas ça sur toi. Tu jouais quel poste?
Je jouais généralement plutôt libéro. Ouais.
Ok.
Donc arrière.
Ok. Donc déjà physique et déjà costaud, il faut avoir du coffre aussi.
Pourtant pas spécialement, mais par contre physique, ouais, je courais beaucoup.
Ouais.
Et puis ça me dérangeait pas de prendre les coups, quoi.
Alors
de faire respecter dans la défense, de faire respecter l'ordre, ça me dérangeait pas du tout.
Ok, ouais. Mais je t'imagine bien, ouais, un petit capitaine de défense un peu carré, à l'idée un peu les autres.
C'était un peu ça. Après, j'étais quelqu'un qui courait aussi très vite.
Ouais.
Donc du coup, parfois j'allais aussi un peu en attaque, mais parce que c'était plus par plaisir. Mais généralement, j'étais vraiment libéro.
Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et il y avait un petit espoir d'en faire une carrière? Parce que tu disais que tu as dû choisir, donc j'imagine que tu es allé vers le 6 et tu avais peut-être de meilleurs résultats.
Ouais, voilà, exactement. Là, on est vraiment là-dedans. C'était un moment où je me posais la question de savoir avec ma famille, bien sûr, est-ce que je vais dans un centre de formation et on fait tout les tests de détection, etc. Ou est-ce qu'à l'inverse, je pars plutôt dans le ski où il y avait déjà des portes qui étaient ouvertes. Parce que dans le ski, le parcours est plus simple, plus fluide.
Ouais.
On a des résultats, on a des portes qui s'ouvrent. Alors que dans le foot, c'est des détections, il faut se faire repérer, il faut aller du coup dans des centres de formation. Puis des fois, on peut passer à côté, à l'image de Griezmann, hein, par exemple. Et c'est ça qui montre que c'est beaucoup plus fastidieux, parce qu'il n'y a pas de critères de sélection. C'est à l'appréciation du recruteur, quoi.
Ouais, bien sûr. C'est très humain, quoi. C'est très subjectif aussi.
Exactement.
Alors que dans le ski, il y a un temps et.
Bah dans le sport individuel de manière générale, il y a une hiérarchie qui se crée, il y a des résultats qui tombent, et avec ces résultats et la hiérarchie qui arrive derrière, on nous ouvre des portes ou non, on rentre dans des critères ou non. Alors après, il peut y avoir des choix et des variante annexe, hein, bien sûr, mais si tout se passe bien, il y a des portes qui s'ouvrent beaucoup plus facilement.
Ouais, mais j'imagine. Et dans le foot, du coup, t'as pas eu cette porte? T'as tenté quand même des sélections?
Non,
ou pas
non, du coup, j'ai pas tenté parce que je m'épanouissais aussi un peu plus, même si mes entraîneurs, ils me poussaient réellement, hein, c'est-à-dire ils me disaient, il faut que tu y ailles, il faut que tu fasses des tests, il faut que tu ailles là-bas, etc. Je me sentais quand même de manière générale plus à l'aise dans un sport individuel. Parce que j'avais beaucoup de mal à accepter perdre alors que je jouais bien ou gagner alors que je jouais mal. C'était quelque chose que j'avais vraiment du mal à supporter. Et du coup, je me retrouvais plus en fin de compte dans les sports individuels où là, on est le seul maître à bord et le seul responsable, quoi.
Ouais, j'imagine. C'est pas facile, hein, quand on est adolescent, je trouve, les sports co, parce que tu dois maîtriser tes émotions, contrôler ta communication avec les autres, et des fois tu peux t'emporter un peu.
Exactement, parce que il y a toujours les meilleurs du groupe, et il y a toujours des moins bons, et c'est vrai que ça constitue toujours une équipe, quoi. Donc et puis en plus, moi j'étais issu d'un petit village et on avait plutôt une bonne équipe. mais il y a toujours quelques enfants qui sont un peu moins bons, et pour autant bah ils constituent l'équipe, et sans eux il y a pas d'équipe, donc ils sont vachement importants quoi qu'il en soit. Ouais. Et le but c'était, je me souviens, on essayait toujours de, alors oui, on titille toujours les plus mauvais, on les charrie surtout quand on est jeune, etc. Mais c'était plutôt bon enfant, c'est-à-dire ouais. Moi je me souviens que la discussion que j'avais, c'était toujours essayer si t'es pas très bon mais que tu essayes d'être bon et que tu donnes le maximum, moi ça m'a jamais posé de problème quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que ce que je supportais pas, par contre, c'était surtout les gars qui pouvaient être bons ou mauvais et qui en fait surtout se donnaient pas les moyens de d'être à fond ou d'y arriver. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours exacerbé.
Ouais. Les gens qui, peut-être les joueurs avec moins d'intention quoi.
Oui, en gros ils sont là mais ils ont pas vraiment envie d'être là et du coup autant aller ailleurs quoi. Voilà, c'était un peu plus ça. Alors qu'il y a des personnes qui sont pas forcément douées mais qui se donnent à fond et qui elles ont en fin de compte plus de mérite quoi.
Ouais. Tu dirais que, enfin, tu te définirais comme quelqu'un qui se donne toujours à fond, qui essaye de tout faire à fond, même en dehors du sport et.
Ouais, je suis assez au fond des choses, peut-être un peu trop même des fois. Très perfectionniste.
Ok.
En plus, on a un sport où le matériel est extrêmement important, donc très perfectionniste où du coup, il y a beaucoup de choses que je prends en considération et que j'essaye de faire à fond.
Ouais, je pense que c'est obligatoire. Enfin, où il y a tellement de dominantes. Où déjà, vous êtes face à un élément. Vous avez beaucoup de matériel. Le moindre centième de seconde est important. Donc.
C'est ça. Bah, il y a des courses qui se jouent à un centième. Hein. Ouais. Moi, j'ai déjà été deuxième ou premier pour un centième. Donc, c'est hyper important de pouvoir tout mettre bout à bout. Alors, des fois, un centième, bon, bah, finalement, c'est juste un gros coup de chatte, mais qu'on n'a pas maîtrisé. Après, j'ai toujours tendance à dire que la chance se provoque. Ouais. Donc, et puis, ça s'équilibre avec le temps aussi. C'est-à-dire que des fois, ça sourit pas trop. Et puis, au bout d'un moment, à l'inverse, on a un peu plus de réussite. Donc, la réussite, ça se provoque toujours. Mais l'essentiel, c'est toujours d'essayer de maîtriser le plus de facteurs possible. Et ce qu'on peut pas maîtriser, on le met de côté, quoi.
Ouais.
Nous, on fait un sport d'extérieur. Donc, la météo, par exemple, on peut pas la maîtriser. Donc, ça, on le met complètement de côté de notre champ du possible.
Ouais.
Et le moment où on a une mauvaise météo, on en fait abstraction.
Ouais.
On n'y pense pas. Faut surtout pas y penser, même.
Ouais. C'est facile pour toi, justement, de faire abstraction de tout ça. Tu vois, de ces éléments externes. Ça peut être.
Ouais, c'est assez facile.
Le public ou le vent, la neige aussi. Je lisais sur tes posts Instagram un peu hier soir. Tu vois, des fois, il y avait des neiges que t'aimais pas du tout et t'arrives facilement à mettre ces choses de côté.
C'est indispensable. Après, il y a des choses qui sont plus dérangeantes que d'autres, mais de toute façon, c'est indispensable. On perd déjà beaucoup d'énergie dans le sport de manière générale, que ce soit avec les médias, que ce soit à cause des protocoles, que ce soit avec les gens qui viennent nous voir et du coup tout
les
ce qui
aussi,
voilà tout, et puis les transports, les sollicitations diverses quoi. Donc en fait, il faut perdre le moins d'énergie avec ce qui on peut pas maîtriser et vraiment arriver à faire complètement abstraction de ça quoi.
Okay.
Alors ça nous empêche pas de après la course de pester un bon coup parce que peut-être on n'a pas eu le beau temps de notre concurrent ou d'un de nos concurrents, mais ça n'empêche que quand c'est comme ça, on en fait très vite abstraction pendant la course. Complètement être abstraction et derrière on élimine vite la potentielle frustration qui peut y avoir liée à ça quoi.
Ouais je vois, mais tu vois je te disais en introduction que j'avais un peu lancé ce podcast pour découvrir un peu quelles étaient les clés de la réussite, et c'est vrai que tu vois je l'ai vu avec Edgar et je l'ai vu avec Perrine aussi, cette capacité à effectivement à se concentrer dans le moment présent au moment où c'est important et à faire abstraction de tout le reste quoi, et c'est quelque chose qui revient beaucoup je trouve chez les grands champions quoi.
Ouais, ben moi
t'as peut-être un protocole pour vraiment oublier tout ou je sais pas, un petit tips, un petit...
Après on n'arrive pas tout le temps à être dans cette zone cette zone d'ailleurs je crois qu'elle a un nom selon certains philosophes, je crois qu'elle s'appelle le flow, je crois. Exactement. Et c'est une zone un peu de maîtrise totale, c'est-à-dire que où en même temps on a l'impression qu'on met le cerveau à côté, c'est-à-dire que et c'est même difficile après coup de complètement analyser ce qu'on a fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a comme une
manque des souvenirs.
Voilà, on a comme une perception qui est tronquée ou pas entière de ce qu'on a pu faire ou réaliser pendant notre performance. Ouais.
Ok.
Et d'ailleurs, si on, vous allez sur Internet, il y a, et que vous trouvez le flow, il y a plusieurs critères. Et il faut pouvoir, en fait, quand on en coche plusieurs.
Ouais.
Et il y en a donc, c'est une l'impression que le temps s'écoule lentement. Alors ouais. alors qu'on va très vite, surtout en ski alpin, on va extrêmement vite et on prend des décisions en une fraction de seconde, en millisecondes. Mais pour autant, on a une sensation de maîtrise ouais. de temps qui s'écoule lentement ou alors en pleine maîtrise, et donc on a l'impression qu'on a le temps de faire les choses, qu'on est dans ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire, et en même temps le plaisir qui est décuplé. Il y a l'adrénaline qui a son maximum, et, ouais. et en fait c'est et voilà, il y a plein de petits critères comme ça, et c'est aussi le moment où c'est comme un accomplissement, ouais. c'est-à-dire que c'est le moment où on a envie d'être et là où on veut être, parce que c'est là où on est le plus performant, mais c'est pas une situation qui est facile à maîtriser à 100% tout le temps, quoi.
Ouais, mais c'est même
d'être dans cette zone, c'est extrêmement difficile d'y être très très régulièrement, et en tout cas à répétition.
Ouais, ok, ouais. Et ouais, t'as des routines personnelles ou des façons justement d'essayer de provoquer un peu cette zone. Je sais pas, ça peut être de la visualisation ou certains vont méditer, d'autres vont écouter de la musique, d'autres vont je sais pas, faire l'amour, tu vois. Enfin, il y a chacun a son truc un peu pour se mettre un peu dans sa bulle et rentrer dedans. Mais
moi. En fait, je pense qu'on a tous un peu des petites routines. Ouais. D'ailleurs, ces routines nous aident à se mettre un peu dans une bulle, et surtout dans cette perception et dans cette zone d'une certaine manière. Donc la routine, elle est toujours assez importante. Après, j'ai pas quelque chose qui soit hyper spécifique. Pour moi, le plus important, c'est toujours d'attaquer avec ma routine d'échauffement, plus ou moins au même moment. Puis après, je prends la prise d'information. La prise d'information, c'est quoi? C'est ce qui se passe sur la piste, comment la piste évolue. Vu qu'on s'éclance tous les uns après les autres, ouais. la piste, elle évolue. On apprend aussi qu'il peut y avoir des portes qui sont plus piégeuses que d'autres, parce qu'on a une reconnaissance avant la course, mais la reconnaissance... On dérape dans le tracé.
On l'a fait tout doucement presque.
On l'a fait tout doucement à l'arrêt. Ouais. On n'a même pas le droit de prendre des portes à vitesse juste un peu lancées. C'est interdit.
Okay.
Si on le fait, on est disqualifié. Donc on dérape, on s'arrête, on fait que ça en dérapage. On prend une demi-heure, 45 minutes pour faire la reconnaissance. Donc c'est très long.
Ouais.
Mais c'est nécessaire pour apprendre les endroits qui coincent. Ouais.
Ouais, exactement. Et qu'est-ce qui se dit pendant cette phase de repérage? J'imagine t'es avec ton entraîneur. Il y a peut-être d'autres skieurs qui sont avec toi. Est-ce que vous posez des questions? Tu dis à voix haute ce que tu ressens avec cette porte ou avec cette partie de la piste?
Ouais, c'est.
Tu fermes les yeux, t'essaies de t'imaginer qu'est-ce qui se dit pendant ces 45 minutes? Parce que on vous voit, tu vois, on voit des images à la télé, tu vois, quand on est pour les fans, on vous voit descendre et tout, vous êtes, ouais, souvent des petits groupes de deux ou trois, tu vois, comme ça. Mais on n'imagine pas du tout, tu vois, ce qui se dit, et on sait pas, en fait.
Généralement, c'est, ça va être plus, quand il y a des échanges, ça va être plus des questionnements, du style, comment toi tu vois les choses, quelle est la distance entre les portes, parce que nous on a des repères qui sont assez précis. Alors ça va pas parler aux gens, mais du style, si on a un espace qui est généralement compris entre 25 à 26 mètres en géant, dans cette discipline, le géant, des fois on demande des écarts et ça peut être à 18 mètres ou 21 mètres.
Ouais.
Et ou 20, même 23 mètres, en fait, ça perturbe le rythme et ça change le rythme. Ou alors même, à l'inverse, on peut avoir des écarts à 30 mètres.
Ouais.
Donc, ce qui fait que on peut prendre plus ou moins de risques dans ces endroits.
De vitesse, ok.
Ou alors plus ou moins de vitesse. Et donc, du coup, c'est des endroits où il faut faire attention.
Ok.
Si ça tourne plus, de la même manière, il peut y avoir des décalages dans les portes. Et donc, ça, c'est des histoires de perception. On parle aussi matériel.
Ouais.
Par exemple, comment tu reçois la neige, je trouve qu'elle est relativement dure, parce que généralement on peut avoir de la glace, mais de la glace qu'on peut en avoir comme la glace de patinoire, extrêmement dure et extrêmement profonde sur 40 centimètres à peu près, ou alors on peut avoir de la glace qui est que sur 10 centimètres, et rien que ça, la différence est pas la même, c'est-à-dire que la résonance est pas la même. C'est comme si on tape dans un mur de placo, et comme on tape dans un mur de béton, quoi. Et ben la résonance du mur est pas du tout la même. Ben c'est pareil sur les skis, pareil sur sur le ressenti qu'on peut avoir quand on skie.
Ouais.
Et tout ça nous aide du coup à appréhender et faire le bon choix sur le matériel. Donc en fait, on échange sur beaucoup de choses. Éventuellement, ça peut même être quelle heure est le départ, savoir s'il va y avoir du soleil sur la piste, savoir si la météo va se dégrader, parce que ça peut aussi contribuer à faire des choix de matériel.
Bien sûr.
Donc en fait, c'est assez pointu, mais en même temps assez varié. Ouais.
Ah, ok. Ouais, donc t'es déjà, en fait, tu rentres un peu dans ta bulle et dans cette zone avec la quantité d'informations que tu reçois et que tu dois assimiler, et que tu dois intégrer pour prendre ta décision, quoi. Et du coup, ouais, y a tellement de choses à penser que ça te permet d'entrer, en tout cas, toi, dans cette zone-là.
Ouais. C'est ça. Et puis après, de toute façon, en fait, on apprend et on enregistre complètement le tracé.
Ouais.
Et les mouvements de terrain qui vont avec.
Ça prend combien de temps, je sais pas moi, la veille d'une descente, combien de temps tu vas essayer de la visualiser, essayer de l'apprendre
Ben zéro, parce que la veille de la descente, en fait, on connaît pas le tracé.
Ah ouais, c'est le jour J, mais entre les...
Exactement,
ouais, c'est le jour J.
Ouais. Par contre, c'est là où notre sport est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de paramètres différents en fonction des disciplines. Dans notre sport, on a 5 disciplines différentes. Et il y en a une qui est la descente, où là c'est comme en Formule 1. Il y a des essais, donc il y a des entraînements officiels qui sont l'avant-veille et la veille.
Ouais.
Et ensuite il y a la course qui est le jour J.
Ouais, ok. Et ouais, et du coup t'as le temps un peu enfin tu dis que tu l'apprends par cœur, donc le matin après avoir fait ta séance de repérage, t'es parti pour apprentissage par cœur de la piste que tu vas faire.
Ouais. En fait, c'est même pendant la reconnaissance de 45 minutes, on prend le temps, on apprend, et à la fin de la reconnaissance,
un peu les gestes, j'imagine.
À la fin de la reconnaissance, on connaît.
Ouais. Ok.
On connaît le tracé. Ouais.
Ok. Ouais, donc ouais, en 30 minutes, t'apprends une piste par cœur, quoi.
Ouais. Alors après, tout est relatif, parce que les pistes, il y a beaucoup de pistes qui, d'une année à l'autre, sont les mêmes. Par contre, le tracé peut être différent.
Ouais.
Mais la piste va être la même. Après. Ça se fait assez naturellement, et puis ça fait partie de notre sport, donc on a l'habitude de le faire.
Ouais, bien sûr. Mais tu vois, on se doute pas, tu vois, que en fait, peut-être que pour faire partie des meilleurs skis alpins au monde, en fait, il faut avoir aussi une part de mémoire, la capacité, tu vois, à vite se remémorer et tout. Peut-être que tu vois, il y a des.
Je pense qu'il y a aussi une importance qui est capitale, c'est l'adaptation dans notre sport.
Ouais.
Et il y a des athlètes qui font des reconnaissances à bras levés, et en gros ils retiennent pas grand chose, et pourtant qui ont été très bons.
Ouais.
Mais de manière générale, je pense que là où il faut être le meilleur, c'est surtout dans la capacité à s'adapter et à prendre des choix, à faire des choix extrêmement vite, et surtout à se faire confiance. Alors se faire confiance, c'est dans tous les sports.
Bien sûr.
Mais là, c'est surtout. C'est presque un peu du culot, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est faire des choix de trajectoire et les assumer d'une certaine manière.
Ouais, bien sûr, je vois très bien.
Alors après, pour les assumer, il faut avoir les capacités, il faut se connaître soi-même, il faut savoir ses forces et faiblesses. Mais ensuite, du coup, ouais, quand on se connaît derrière, faut assumer ces lignes-là.
Ouais, ouais, exactement. Ouais. Tu prends des décisions et tu t'y engages, quoi, tout
exactement.
Simplement. Exactement. Ouais. Il y a quoi comme gros choix de matériel à faire? Du coup, j'imagine, t'as plusieurs paires de skis, plusieurs paires de chaussures. Du coup, tu peux décider au dernier moment de changer les deux. J'imagine que tu vas pas farter différemment tes paires aussi. Il y a quoi d'autre qui peut changer?
Le fart est pas si important que ça chez nous. En ski de fond et en biathlon, ça l'est réellement. Chez nous, c'est plus la semelle qui est importante. Donc, c'est le ski et la structure du ski réellement. En fait, sur un ski, pour bien comprendre, on peut changer énormément de choses. On peut changer la ligne de côte. La ligne de côte, c'est la manière dont le ski est shapé. Donc,
Ça forme.
Voilà, ça forme de manière générale. On sait tous qu'un ski devant, il est plus large que sous le pied et ouais. que derrière, c'est justement les nouveaux skis paraboliques qui sont apparus il y a à peu près 15 ans. Ouais. Enfin, non, il y a 20 ans maintenant. Et alors qu'avant, on avait des skis droits, c'était des planches droites, quoi. Et ce qui nous faisait aller tout droit. Ben, voilà. Donc, en gros, il y a le shape du ski, la forme okay. qu'a le ski. Il y a la construction, qu'est-ce qu'on met dedans?
Ouais, les matériaux.
Les matériaux qui sont utilisés. Et puis après, il y a l'affûtage aussi beaucoup.
Ok.
Le canting, qu'est-ce que c'est le canting? C'est l'angle de nos chaussures, l'angle où est affûté les skis, ça peut être, en fait, il y a énormément de facteurs. C'est difficile de tout expliquer pour que tout le monde comprenne, mais l'angle des chaussures, par exemple, influe énormément. Ça influe sur l'angle de nos okay. genoux. Donc, on peut mettre des genoux qui sont plus ou moins droits par rapport à notre pied, ou d'accord. alors à l'inverse, on va donner de l'angle à la chaussure, et donc les genoux vont sortir
okay.
un peu vers l'extérieur.
Okay.
Donc, faire comme des jambes un peu arquées, quoi. Sauf que ça va donner plus d'agressivité du coup sur notre manière de skier, et okay. notamment sur dans le ski, on va ressentir plus d'agressivité dans le ski. Ouais.
Ok.
Donc, c'est des petits exemples, mais on peut changer donc énormément de choses, et ça, on le fait. Soit en fonction de la neige, soit en fonction du tracé, soit en fonction aussi du terrain. S'il se dégrade beaucoup ou pas, on peut faire tel ou tel choix.
Ok. Bah écoute, merci pour ces précisions. Moi, je trouve ça passionnant. Tu vois, comme je suis un fan de tous les sports, si je peux rentrer dans la technique, ça me va super bien. Il y a une autre question, tu vois, un peu liée à la compète et un peu à la préparation et tout. C'est cette espèce de chambre d'appel là que vous avez en haut avant de démarrer, où on voit vous êtes trois ou quatre au même moment pendant qu'il y en a un qui part. Ou
ouais, ça va dépendre des endroits, mais ça va être. Ça peut être seul, ça peut être deux, ouais. généralement trois, c'est rarement plus, ouais, c'est trois, généralement, parfois quatre, mais quatre, ça veut dire que c'est une grosse aire de départ, ouais. ça peut arriver, mais c'est pas tout le temps.
Ok. Et, à quoi tu penses, toi, à ce moment-là? Et est-ce que c'est pas perturbant d'avoir d'autres skieurs à côté de toi?
Non, parce qu'en fait, c'est notre sport, quoi. Je pense que ça peut être perturbant quand on n'a pas l'habitude, qu'on vient complètement d'un autre milieu, etc. Ouais. Mais nous, en fait, c'est comme ça, c'est notre sport. Il a toujours été comme ça, et donc ça fait complètement partie de, ouais. de intégrante de ce qu'est et ce que représente le ski alpin.
Ouais.
À quoi on pense? Généralement, on va penser plutôt à l'essentiel et voire même le moins possible. Plus je me rapproche du départ, plus je fais le vide okay. complètement, quoi. Le but, c'est que quand je sois dans le portillon de départ, il n'y a qu'une seule chose qui soit toujours présente, c'est un peu cette niaque, quoi, et l'envie d'y aller, et puis surtout le vide, et puis, et de toute façon, c'est, donc d'une certaine manière, c'est de l'abandon.
Ouais.
Quand on est au départ, on abandonne. Quand je dis on abandonne, c'est on abandonne quelque chose, quoi. On abandonne pas la course, bien entendu, mais on abandonne la réflexion, on abandonne la conscience, et on laisse place à l'inconscience et à la maîtrise de ce que notre corps a appris, quoi.
Ok.
Donc c'est d'une certaine manière la pleine confiance.
Ouais.
Je sais pas si je suis hyper clair dans ce que je dis, mais c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, parce que c'est vraiment des choses qui se vit. Mais ouais, c'est quand je dis l'abandon, c'est l'abandon de soi, c'est du coup la pleine confiance en soi et laisser le côté inconscient et finalement animal aussi, de nous-mêmes qui ressortir.
Bah écoute, non, c'était très clair. Et c'est vrai que tu vois, c'est un moment où t'es seul avec toi-même, tu vois, et c'est pas toujours. Déjà, c'est privé, un peu. Je pose une question un peu intrusive, tu vois. Faut aussi le dire. Et ce qui se passe, c'est difficile de le retranscrire juste avec des mots, alors que c'est toutes tes émotions et ouais. tout ton cerveau qui travaille, tu vois.
Ah, c'est plein d'émotions, exactement. Ouais. C'est plein d'émotions, mais et c'est pour ça que c'est dur de mettre des mots dessus. Ouais. Mais pour autant, c'est, je pense que si je peux le décrire, c'est comme ça que je le décrirais. Ouais.
Bah écoute, c'est une belle métaphore. J'aime bien poser la question parce que tu vois, une fois, je l'ai posée à Denis Gargaud. Je sais pas si tu vois, c'est un kayakiste qui a été champion du monde à Rio, champion olympique pardon à Rio. Salut Denis, si tu nous écoutes, on te fait une bise. Et tu vois, lui, il m'a dit, mais écoute, moi, quand je suis en haut de la rivière, bah, je me prends pour un tueur, quoi. dis j'ai des idées, en fait je crée de la colère en moi, en fait j'ai envie d'être le plus en colère au moment où je pars, tu vois. Et du coup je trouve que la question elle est intéressante, tu vois, pour les sports où il y a une, parce que vous avez tous une approche qui est très différente, d'autres qui vont essayer d'être le plus calme possible, d'autres qui vont essayer de s'énerver le plus possible, toi t'essayes de mettre le plus de choses de côté, j'ai l'impression aussi.
Je pense que la finalité elle est un peu la même,
bien sûr.
C'est-à-dire que d'une certaine manière on essaye de faire ressortir l'animal qui est en nous, parce que
ouais.
Je pense que tout sportif, maintenant ça choque un peu quand on dit qu'on est des animaux, parce que on est des animaux extrêmement développés et qu'on a créé une société autour de nous qui est extrêmement développée, et en plus de ça on est extrêmement intelligent.
Ouais.
Mais pour autant on reste des animaux, c'est-à-dire qu'on est un mammifère.
Ouais.
Et je pense que la finalité elle est la même, c'est-à-dire qu'on a tous l'envie de faire ressortir ce côté un peu animal et primitif. Ouais. Au moment où on veut réaliser notre performance, parce que c'est là où en fait nos muscles ils vont réagir,
ouais,
directement sans même que le cerveau intervienne.
Ouais.
Et c'est que dans ces moments-là où les muscles vont arriver à le faire, et du coup notre corps va réussir à le faire, c'est quand notre cerveau n'intervient plus.
Ouais. C'est clair, mais t'as tout à fait raison. Écoute, c'est la première fois qu'on me fait cette métaphore là, mais je pense elle est vraiment vraie. Enfin, tu vois, je le vois moi quand je m'entraîne et tout. C'est, j'essaie vraiment de refaire sortir l'animal qui est en moi. Et je pense qu'on a tous un animal un peu différent, tu vois. Mais...
Ah, c'est certain. J'espère juste qu'il y ait pas trop d'agneaux, mais oui, ça c'est certain.
Pour certains, c'est le dindon ou le raton laveur. Hein, on sait pas. Mais effectivement, pour d'autres, c'est peut-être plus le tigre ou quoi. Mais écoute, très cool. Merci de me partager ça. Moi, j'adore, tu vois, ces petits moments qu'on peut pas forcément saisir, tu vois, quand t'es derrière ta télé et que t'essayes un peu de comprendre, de vivre le sport, tu vois, un peu par procuration, mais de le vivre aussi. Donc ça aide bien, quoi. Mmh. Je fais un petit flashback au jeune Alexis, du coup, qui a 15 ans et qui choisit le ski. À ce moment-là, tu sais déjà que t'as envie de remporter des globes, que t'as envie de faire des Jeux Olympiques, de gagner des Coupes du Monde. Est-ce que tu as de faire aussi bien que les anciens que t'as cités, que ça soit Luc ou Jean-Claude, tu vois?
Pas spécialement. Ouais. En fait, je pense que je me suis toujours vu dans le sport. C'est-à-dire que très jeune, je me disais, mais de toute façon, qu'est-ce que je ferai plus tard? Je sais que ce sera dans le sport, quoi. Je me voyais en tant qu'athlète. Ça me semblait assez. Moi, je me sentais assez sûr de moi dans cette perception-là, et je me disais que je serais athlète. Par contre, athlète de quoi, ça, j'en avais aucune idée. Alors oui, j'avais des préférences pour le ski, j'avais des préférences pour le foot, mais bon, j'ai fait tellement de sports quand j'étais petit. J'ai fait de l'escrime, j'ai fait du tennis, j'ai fait des sports de combat, j'ai fait du wakeboard. Enfin, du coup, j'ai vraiment touché à différents sports.
Ouais.
Et puis, par contre, je pense que c'est pour ça que je me suis dit, ben, de toute façon, je ferai du sport. Puis après, bah, c'est venu avec le temps, avec les résultats que je pouvais avoir, où là, de plus en plus, je m'orientais vers le ski.
Ok. Et c'était qui les idoles ou les... Enfin, j'aime pas dire le mot idole parce que souvent, il est mal interprété et tout, mais quels étaient les athlètes qui t'inspiraient, soit dans leur comportement, dans leurs résultats. Tu vois, quand on est jeune, on cherche un peu souvent des rôles modèles, tu vois.
Moi j'en avais pas.
Ok.
J'en avais pas du tout, en fait.
Il y avait pas de poster dans ta chambre?
Non, il y avait pas de poster dans ma chambre. Ouais.
Okay.
J'en avais pas parce que en fait je regardais presque jamais le sport à la télé. Pourquoi?
Okay.
Parce que je regardais pas la télé, en fait. Je passais mon temps à faire du sport, à jouer dehors, à m'amuser avec mes copains, et j'étais assez hyperactif quand j'étais petit.
Ok. T'as joué des tours en tant que cadeau?
Non. Aujourd'hui, on dit que c'est un problème d'être hyperactif.
Je considère pas que.
Moi, j'ai jamais considéré que c'était un problème. Et j'espère que mes enfants seront hyperactifs. Parce que en fait, c'est aussi un enfant qui est plein de vie, quoi. Et un enfant qui est plein de vie, c'est qu'il est éveillé.
Ouais.
Et moi, je passais mon temps du coup dehors à jouer et à me dépenser.
plutôt qu'à faire ses devoirs.
Ouais, mais
c'était sous-entendu dans ce que tu disais.
Ouais, mais mes devoirs, disons que c'était souvent un peu mieux faire, quoi. J'étais pas un cancre, j'étais plutôt doué à l'école, mais je me tuais pas à la tâche, quoi.
Ouais. Ça te passionnait pas, quoi, tout simplement, donc.
En tout cas, la manière dont je l'apprenais, etc.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Et vu que c'est assez, on va dire que c'est peut-être pas assez concret quand on est jeune et qu'on est à l'école, surtout que ça nous paraît encore assez lointain hein, quand on est petit. Le monde de l'entreprise et du travail, ça nous semble assez lointain. Mais pour autant, maintenant, à mon âge, il y a plein de domaines qui m'intéressent et qui sont pas dans le sport. Et il y a plein de domaines qui m'intéressent et je me renseigne sur plein de domaines. Mais voilà, quand on est plus jeune et que c'est moins concret, du coup, je me tuais pas trop à la tâche. Ouais.
Ok. Et c'est en 2008-2009 que tu arrives sur le circuit pro. Et tu vois, dans ton livre, tu vois, je sais plus comment tu le dis, le nom du chapitre, mais tu commences tout de suite par dire, voilà quoi, ça rentre chez les pros, c'est l'envol. Voilà, tu parles de l'envol. Et tu fais comprendre que tout est beaucoup plus sérieux. Il y a la nutrition, la musculation, le choix du matériel où il y a beaucoup de connaissances aussi théoriques à apprendre. On sent que toi, tu te professionnalises et que tu arrives à mettre beaucoup d'attention dessus. C'est pas difficile justement pour l'élève qui est un peu, tu vois, qui est pas fan de toute cette partie-là, de se professionnaliser et d'essayer d'être le plus sérieux possible dans tous les choix que tu dois faire déjà à l'époque.
Non, là-dessus non, parce que autant à l'école, c'est en gros les devoirs et tout ça m'intéressait pas le plus, ouais. Mais par contre être perfectionniste, ça m'a toujours animé et peu importe, alors dans le ski en particulier bien sûr, mais dans tout ce que je fais quand même de manière générale, j'aime bien aller au bout des choses, c'est-à-dire que si je décide de faire quelque chose, j'essaie de le faire à fond, quoi.
Ouais.
Et du coup dans le ski, ça a pas dérogé à la règle, et tout de suite quand ça a commencé à devenir plus sérieux, je l'ai appliqué et j'ai essayé surtout de l'intégrer.
Ouais.
Parce qu'il faut déjà l'intégrer au début, et puis après avec le temps, je suis même allé davantage là-dedans, c'est-à-dire que les années ont passé, j'étais au sein même de la fédération et je sentais qu'il y avait des choses qui bloquaient dans mon fonctionnement, dans mon entraînement, dans le suivi que je pouvais avoir, et donc du coup derrière il a fallu faire avancer les choses. Et c'est pour ça que maintenant autour de moi il y a un groupe qui fonctionne de manière individuelle, je suis plus à 100% uniquement dans les groupes fédéraux, j'ai une petite structure autour de moi qui est un peu plus, on va dire, indépendante,
même
indépendante complètement,
ouais, 100%, ouais.
Qui appartient toujours à la fédé mais qui est indépendante, et ça c'était indispensable pour mon fonctionnement et surtout par rapport au calendrier, la performance que je voulais avoir, que j'avais, et mon calendrier qui était extrêmement contraignant parce que je suis l'un des rares athlètes qui fait autant de disciplines. Généralement les athlètes font deux disciplines maximum, certains sont monodisciplinaires. Et pourquoi on a si peu d'athlètes qui font plusieurs disciplines, c'est parce que c'est de plus en plus dur d'être polyvalent. Donc beaucoup d'athlètes se spécialisent pour y arriver, parce que sinon s'ils restent sur deux disciplines, ils n'y arrivent pas, donc ils se spécialisent et ils s'orientent à 100% sur une seule discipline.
Ouais. Qu'est-ce qui fait que toi t'as jamais choisi justement entre le géant, le super G, slalom,
je pense que ça vient aussi de un peu de mon histoire, tous les sports que j'ai fait, justement tous ces sports que j'ai fait, c'est parce que j'avais toujours envie, l'envie, la motivation de découvrir quelque chose de nouveau, des nouvelles sensations, des nouvelles motivations, des que ce soit dans les sports co, dans les sports individuels, et puis des nouvelles facettes de moi aussi. Et donc en fait, c'est découvrir sur moi, découvrir des sensations, découvrir des émotions, et de la même manière, pourquoi je suis resté, je pense, polyvalent, c'est parce que ça m'a toujours animé, ça m'a toujours plu. Et au contraire, la routine m'a toujours tué. Ouais. C'est-à-dire quelque chose de faire,
beaucoup,
ouais. Voilà, de faire quelque chose cyclique, routinier. Je trouve que c'est le plus gros ennemi du sportif, quoi.
Ouais. Mais bon, tu le dis très bien.
Moi-même, en tout cas.
Ouais, tu le dis très bien dans ce livre, que pour être athlète de haut niveau, il faut des routines. Mais que toi, t'avais en permanence besoin un peu, enfin, ce que j'ai compris, c'est que t'avais besoin d'un nouveau challenge ou d'alimenter ces routines avec du plaisir. Et ce plaisir, tu le trouves dans de la diversité et
c'est ça.
Dans tout ça. Et...
C'est ça. Alors, en fait, déjà, on est dans un système, le sport de haut niveau est déjà assez routinier.
Ouais.
On prend le tennis, ça parle à tout le monde. Tous les ans, il y a Roland Garros. Tous les ans, il y a Wimbledon. Tous les ans, il y a.
Pour vous, c'est pareil.
Pour nous, c'est pareil. Pourtant, ça plaît aux téléspectateurs. Et c'est d'ailleurs ces grandes classiques qui font aussi la renommée de tous les sports. De certaines courses, bien entendu, mais de l'ensemble des sports. Sauf que du coup, ça crée un certain cycle. Et nous, en tant qu'athlète, au bout d'un moment, en fait, on rentre dans un peu une routine. Et la routine, ne met pas en éveil.
Ouais.
C'est-à-dire que je sais pas, on prend un lion qui a toujours l'habitude d'aller boire au même endroit, bah au bout d'un moment il va plus faire attention à son environnement et il suffit qu'il y a un truc qui sort du contexte et là tout de suite il va le remarquer.
Ouais.
Donc en fait, c'est apporter quelque chose qui sort un peu du contexte pour qu'on puisse le remarquer et surtout nous apporter de la nouveauté.
Ouais.
C'est ça le plus important, quoi. Et pas de faire les choses de manière cyclique et bêtement, parce qu'au bout d'un moment, en fait, on devient presque amorphe et c'est pas bon pour la performance. Hein.
Mais du coup, tu vois, t'as ce rythme effréné, tu vois, où du coup, tu joues sur tous les circuits, physiquement. Tu vois, il y a très peu de skieurs qui vont faire autant de courses que toi. Je pense que t'es un de ceux qui fait le maximum de compètes dans une année. Je sais pas si t'as un record là-dessus, mais
non,
je serais pas étonné que certaines saisons, tu fais partie, voilà, des 5 skieurs mondiaux qui en font le plus. Il y a pas eu des moments où justement c'était trop dur physiquement. Tu dis un peu qu'avec après le gros globe de cristal, t'as pas forcément hyper bien récupéré ou peut-être t'as voulu reprendre trop vite. Physiquement, ouais, c'est plus dur à gérer d'avoir beaucoup plus de courses.
Physiquement, bien sûr. Après, c'est pas beaucoup plus dur à gérer. En fait, ce qui est plus dur à gérer, c'est
la côté.
C'est tout.
Ouais.
C'est-à-dire plus de déplacements,
voilà. Plus d'entraînement.
Exactement. Il y a plus de déplacements, il y a plus d'obligations, il y a plus d'entraînement. Du coup, il y a une charge d'entraînement qui doit être plus importante parce que quand certains athlètes s'entraînent dans qu'une seule discipline, bah moi, il faut que je m'entraîne dans 3 disciplines au minimum, voire 4. Ce qui fait que, en fait, il faut tout millimétrer. Il faut tout optimiser et on peut pas laisser le moindre espace aux détails ou c'est-à-dire aux détails qui végètent, quoi.
Ouais.
Il faut tout régler, il faut tout fixer, il faut tout que soit bien ficelé aussi et pour qu'à la fin tout soit bien concret et que tout s'emboîte ensemble, parce que le moindre petit grain de sable se transforme vite en caillou dans cet ouragan, et du coup le moindre petit caillou, ben après dans les sports de haut niveau, ben c'est de la performance en moins et à la fin c'est un manque de résultats,
bien sûr.
Donc ça, c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir tout maîtriser, mettre en place ce qu'on peut maîtriser, encore une fois, mais et après, une fois que tout est en place, bah derrière, ça laisse aussi plus facilement libre cours à développer son potentiel physique et surtout en tant qu'athlète dans son sport, quoi.
La question qui me vient, c'est comment est-ce que tu prépares du coup une saison à l'avance? J'imagine que tu as mentionné tout à l'heure que tu avais une structure, tu étais bien entouré, mais il y a tellement d'informations, tellement de courses. Sûrement le préparateur physique qui doit avoir des trucs à dire, ton entraîneur de ski qui doit avoir des choses à dire, la personne qui gère ton matériel aussi doit avoir des choses à dire. Comment est-ce que vous arrivez justement à, bon, il y a de l'expérience, j'en doute pas, mais comment est-ce que ça se passe pour planifier cette saison?
Faut discuter. Et puis après, de toute façon, c'est moi qui tranche, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que il faut discuter, il faut prendre les avis, et puis à la fin, il faut que l'athlète et donc moi se sente à l'aise là-dedans.
Ouais.
Et donc, s'il y a des choses à trancher, parce que à partir du moment où je me sens pas à l'aise, bah, il faut les écarter pour garder là où je sens que ça me correspondra plus.
Ouais. Ok.
Parce que bien sûr, il y a un chef de groupe. Le chef de groupe est là pour, c'est un peu le maître d'orchestre. Et moi, grosso modo, du coup, je n'organise rien, mais je donne mon avis et j'oriente les choses d'une certaine manière. Et puis après, le but, c'est que ça marche de concert.
Ouais. Ouais. Ok. 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 Hyper intéressant. Et dans justement, du coup, dans la structure qui t'entoure, combien est-ce que vous êtes les personnes un peu clés? Il y a ce chef d'orchestre, du coup, j'imagine, qui doit être la personne déterminante.
On est nombreux et je pense que ça, il y a pas beaucoup de personnes qui s'y attendent. Mais moi, par exemple, juste autour de moi, alors c'est aussi parce que j'ai un fonctionnement un peu particulier et que je fais autant de disciplines. Mais autour de moi, il y a 7 personnes.
Ouais.
8 avec moi.
Ouais, donc c'est une vraie équipe, quoi. C'est un vrai boulot.
Il y a un préparateur physique, un kiné, ouais. 2 entraîneurs. Ouais. Donc mon entraîneur en chef, ouais. qui est le chef du coup du groupe, et un adjoint. Il y a un attaché de presse et 2 techniciens,
ouais.
Pour le matériel.
Ouais, donc ça fait du boulot.
Ouais,
faut exécuter, quoi. Faut que tout le monde ait le même niveau d'exécution que toi. Et...
Ouais, c'est un vrai petit groupe, hein. Du coup, donc après, il faut bien caler les choses et puis ça se fait assez naturellement. Hein. C'est pas.
Bien sûr.
Ça semble. C'est pas non plus. Enfin, c'est pas une grosse machinerie. Ça semble. pas comme ça, quoi. Ça reste assez simple.
Bien sûr.
Ça reste assez simple. Ouais.
Ouais, et flexible, j'imagine. Ouais. Non, et puis en plus avec l'expérience qui s'accumule, tu peux anticiper de plus en plus de trucs, quoi.
Puis on est dans un milieu où c'est pas comme dans une entreprise où voilà, il y a des process à respecter, il y a des manières de fonctionner à respecter, il y a des choses qu'on attend, etc. Nous, ce qu'on attend, c'est la performance. En gros, derrière, on se pose pas 50 000 questions, on fait les choix qu'il faut, et puis derrière, on doit pas avoir d'obligations. Et puis les obligations, au pire, on peut essayer de vite les chasser. C'est-à-dire, si y a un partenaire aujourd'hui qui me dit j'aimerais bien que tu puisses venir là. C'est tout le temps écrit dans mes contrats, par exemple, que si je peux pas parce que c'est pas logique vis-à-vis de mon calendrier ou que je ne peux pas vis-à-vis de ma performance, etc., je ne suis pas obligé d'y aller. Et généralement, je n'y vais pas. Donc après, faut toujours trouver l'équilibre, bien sûr, mais je veux dire que il n'y a pas les process, c'est la performance, quoi. Donc ouais. Après, on fait le nécessaire pour être performant. Et donc,
tout le reste.
Voilà, il y a peu de choses bloquantes, finalement.
Ok, ouais, mais c'est hyper intéressant en tout cas. Tu vois, je suis curieux de savoir à quoi ressemble ta saison en prépa physique, parce que sur Insta on voit beaucoup on va souvent faire du squat.
Squat très important. Ouais.
Beaucoup d'abdos aussi parce que effectivement vous avez tellement de rotations et il y a tellement de G qui passent par la ceinture abdominale que j'imagine que tu dois avoir des abdos et un dos en béton, quoi. Mais à quoi ça ressemble du coup une saison de préparation physique?
Ah, c'est long, hein, une saison de préparation. En fait, une saison à l'inverse de ce que beaucoup de monde croit. Moi, c'est souvent qu'on me dit ah, mais là, vous allez rattaquer l'hiver, c'est mois d'octobre, vous avez passé un bon été, c'était bien les vacances. C'est-à-dire que la période d'entraînement, c'est tout l'été. C'est là où on s'entraîne, c'est là où on fait toute la préparation, que ce soit physiquement ou sur les skis. Ouais. Et pendant l'hiver, en fait, c'est presque que de la mise au point matérielle, où on continue de tester des choses, on continue de mettre des choses en place, etc. Donc, on fait du développement, soit du maintien de forme. C'est-à-dire un peu comme n'importe quel athlète quand il est sur des sites de compétition, il fait des séances qui sont relativement courtes, mais c'est juste pour garder finalement le rythme, quoi.
Ouais.
Et ben là, c'est un peu la même chose pendant l'hiver. On garde un rythme, un rythme et de croisière, mais on s'entraîne plus réellement.
Donc si je te demandais ton record en squat, faut que je vienne te voir en juillet ou en août.
Généralement on attaque, donc on est un mois de vacances, c'est habituellement mi-avril jusqu'à mi-mai, quoi. Et mi-mai, on reprend l'entraînement physique. On reprend l'entraînement physique, donc on retourne dans les salles, on fait beaucoup de squats, bien sûr, musculation de manière générale, donc haut et bas, et bien sûr la ceinture abdominale hyper importante. Le bas, bien entendu, en fait, le plus important, c'est fessiers, quadris, ischio.
Ouais.
Derrière, on fait de l'endurance, donc on fait pas mal de vélo ou des intermittents, pas mal d'appui pour garder énormément d'explosivité parce que surtout
ouais, tu fais beaucoup de
proprioception. Voilà,
ouais.
On a besoin de beaucoup d'explosivité, proprioception pour tout ce qui est équilibre, etc.
Pliométrie aussi, je te vois avec les petits les petits anneaux là.
Ouais,
pliométrie.
On a, comme je disais, on a besoin de beaucoup d'explosivité, donc pour la fibre rapide, et, c'est pour nous c'est important. Et puis après, donc tout ça, la préparation physique, elle est de mi-mai jusqu'à en fait dès qu'on pendant tout l'hiver, quoi, on s'arrête jamais. Mais le gros bloc, il est jusqu'à mi-août.
Ouais.
Ça c'est vraiment un gros bloc de généralement presque 3 mois où on fait que de la prep physique. Pourquoi on fait autant de préparation physique? C'est parce que notre sport est extrêmement à risque.
Ouais.
On a beaucoup de blessures, de croisés, de problèmes de dos, d'os qui cassent, de ligaments qui pètent. Alors ouais. Les genoux surtout, mais on peut avoir plein d'autres pathologies et de blessures, quoi.
Ouais.
Donc du coup, le meilleur allié pour contre tous ces problèmes-là et notamment les pépins physiques, c'est la préparation physique pour pallier à tous ces problèmes. Et puis après, on rattaque le ski. Donc ouais. On rattaque le ski. Donc là, on va sur les glaciers ou en hémisphère sud pour retrouver la neige et se relancer justement et préparer la saison.
Ok, passionnant. Ouais. Et on se rend pas compte à quel point vous êtes des athlètes complets, je trouve.
On est extrêmement complet. Et puis comme je le disais, en fait, on se doit d'être complet. Certes, on skie avec nos jambes, mais c'est là où on a besoin énormément de puissance dans les jambes. Mais vu qu'on va extrêmement vite,
ouais.
Il faut que le haut du corps suive les jambes.
Ouais.
Et pas qu'on soit un pantin désarticulé avec des jambes qui sont solides, quoi.
Ouais.
Et du coup, le tronc doit être aussi, lui, hyper solide, parce que sinon, si on n'arrive plus à suivre les jambes, en plus, on prend des impacts contre les portes. Ouais. Donc, du coup, il faut pouvoir contrôler ces impacts-là. Léger comprend, il faut que le tronc les contrôle. Ouais. Et puis, si le tronc contrôle pas certains jets et qu'il part en arrière, en fait, on peut aussi se blesser parce que du coup le tronc part en arrière, le buste part en arrière et résultat des courses, les genoux partent devant et ça peut être une réaction du car et tac, les genoux qui pètent, quoi.
Ouais.
Ouais. Ça se passe en une fraction de seconde. Donc voilà, c'est pour ça que on a besoin d'avoir un corps qui soit bien solide. Ouais.
Ouais. Ouais. Ça c'est clair et c'est
encore,
un gros point fort. Hein.
Moi je suis un technicien. Hein. Donc c'est-à-dire que je suis un athlète qui est plutôt léger, explosif, un profil.
Tu surveilles ton poids?
Ouais, on surveille notre poids. Ouais. Finalement, un athlète qui ressemble un peu plus à un sprinter. Descendeurs, c'est des
beaux bébés.
C'est des beaux bébés. 95 kilos de moyenne. Moi, je suis à 84. Ils me mettent 10 kilos quand même. Ouais. Avec des gabarits qui font 1m90, 95 kilos, ou entre 90 et 2 mètres. Enfin, voilà, c'est des beaux bébés, quoi. C'est des premières lignes, quoi. Parce que, avec la bedaine, peut-être en moins pour certains, mais bon, et encore.
Ouais, encore certains l'ont un peu, ouais. Certains l'ont un peu.
Mais après, ça peut être aussi nécessaire. La descente, ouais. Notamment, c'est un sport où on accumule de la vitesse. Et puis il y a un phénomène physique, hein, donc on pousse une boule au début d'une pente, forcément plus on est lourd plus on ira vite à la fin, quoi.
Ouais, mais je vois,
c'est pas aussi simpliste, hein, mais ça y contribue un peu quand même.
Ouais, puis ça c'est sûr que le poids joue forcément, quoi. Mais hyper intéressant tout ça. Tu vois, t'as parlé des pépins physiques ou potentiellement des chutes. Comme je te le disais, il y avait une conversation qui m'avait beaucoup marqué avec Antoine Deneria, qui a beaucoup marqué aussi les auditeurs, parce qu'il s'était livré, tu vois, sur effectivement quasiment 10 ans après, cette peur qui l'empêchait un peu de revenir. Toi, t'as cette capacité à mettre tout dehors, enfin à l'oublier et tout. Mais c'est quoi ta relation avec la peur ou l'accident? Si tu lui mets une claque et tu lui dis on parlera demain ou
En fait, elle est assez omniprésente dans notre sport. C'est-à-dire que la blessure, le crash, l'accident, il est partout, quoi. On fait une course, surtout en vitesse, il peut souvent y avoir des barquettes, comme on appelle ça. Barquette, c'est on part en civière, quoi. Donc du coup, au civière ou hélico, si c'est plus grave. Donc du coup. C'est omniprésent, ça arrive presque à chaque course. Pour autant, pour autant, en fait, on l'accepte. C'est-à-dire que si on l'accepte pas, on doit arrêter ce sport. Et beaucoup d'athlètes, comme Antoine, mais ça n'a pas été le seul. C'est des décisions qui se respectent énormément aussi, parce que on met notre intégrité physique en jeu. Et pendant X années, et Antoine a eu subi un énorme crash. Et derrière, automatiquement, derrière, ça marque. Moi, c'est-à-dire que ça m'est un peu tombé dessus après quelques années en Coupe du Monde. On a perdu David Poisson en entraînement, et ça nous marque, quoi. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était des choses où on n'y pensait pas spécialement. On y pensait, on savait que c'était présent, mais pas jusqu'à là, pas jusqu'à perdre quelqu'un. Et pour autant, là pour le coup, je me souviens que derrière ça, pour moi, ça avait été dur. Et je me souviens que pendant quelques courses derrière, c'était dur. On réfléchissait à. Enfin, moi, j'étais au départ et je me disais, c'est l'accident, il peut être présent. Et derrière, il a fallu un peu de temps pour pouvoir l'intégrer et passer outre et finalement reprendre une certaine confiance et arriver à mettre ça un peu de côté, même si je le répète, on fait du sport pour la compétition, on fait du sport pour des émotions et du plaisir surtout. Ouais. On sait que l'accident est présent, mais bon, notre sport, il y a tellement d'adrénaline aussi que l'adrénaline, elle vient parce qu'il y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de risques. Mais on n'a pas non plus envie d'en arriver là, et ça servait à rappeler, enfin ça rappelle quand même tout le monde un peu à l'ordre.
Ouais. Ouais, c'est clair. Écoute,
je te coupe, mais vas-y, ouais, vas-y. En fait, je pense que dans le milieu du ski, on reste assez humble, parce qu'on sait tous que l'épée de Damoclès, elle est pas loin, quoi.
Ouais. Mais écoute, merci pour ta transparence, tu vois. C'est vrai que on peut avoir tendance à l'oublier en se disant, vous êtes des pros, vous volez, quoi, sur la piste, pour avoir déjà, tu vois, assisté à des descentes à Serre Chevalier, quand on voit la vitesse à laquelle qu'elle vous est engagée, c'est un truc de dingue, tu vois, et on peut se dire, c'est bon, il faut toute la journée, ça n'arrive qu'aux autres, tu vois, ça n'arrive qu'aux petits crétins de Parisiens qui a pas fait de ski depuis 3 ans et qui s'est pris pour Alexis, tu vois, le jour de la reprise. Mais
non, ça arrive, c'est omniprésent, ça arrive à tous les athlètes, il y a des blessures à chaque compétition, chaque week-end, il y a au minimum une blessure. Ouais. Okay. Donc on est 70 partants, ça peut être des plus jeunes et ça peut ne pas forcément être parmi les meilleurs mondiaux, c'est même assez rarement parmi les meilleurs mondiaux, mais sur les 70 partants qu'il y a chaque week-end, il y en a toujours un qui se blesse. Ouais.
Ouais, donc, ouais,
et puis c'est pas une petite blessure, c'est une blessure qui nous éloigne pendant 6 mois, qui demande une opération, etc.
Il y a de la casse, quoi.
Ouais.
On va repartir sur un sujet, un autre sujet un peu gros. Enfin, il y a deux sujets. J'ai dit qu'on avait encore 5 minutes. Le premier sujet, c'était la pause du confinement, parce que dans ton livre, t'en parles, et j'ai l'impression que ça fait beaucoup de bien. Et la preuve en est avec ce super globe que t'as ramené à la maison à la fin de la saison d'après, quoi.
Ouais.
Que ça a été un break qui t'a fait du bien, sur lequel tu t'es ressourcé, et j'aimerais que tu me racontes un peu cette période là et cette saison, et puis après j'aimerais que tu me racontes aussi comment est-ce que le projet du livre est arrivé sur la table. Alors j'imagine que les deux sont un peu connectés,
ouais,
le confinement, le trophée et le livre. Tiens, on a ces trois sujets, par où tu commences, tu nous racontes comme tu veux.
C'est en fait, le confinement, ça nous est un peu tombé dessus. Alors moi,
ça a coupé la saison en plus.
Ouais, ça a coupé la fin de saison. En plus de ça, j'étais déjà en lice pour potentiellement gagner le gros globe. Sauf que c'est tombé un mauvais week-end. C'est-à-dire que moi, je fais plutôt des disciplines techniques, comme je le disais, et il y a les disciplines de vitesse. Et généralement, c'est un peu un week-end sur deux. Ouais. C'est-à-dire qu'on alterne. On fait un week-end technique, un week-end vitesse, etc. Et au moment où on arrête la saison, le week-end de vitesse, enfin le nombre de vitesses était plus important parce qu'on venait de passer un week-end de vitesse. Et ce qui fait que normalement on devait avoir un week-end de technique qui arrivait. Et
où t'aurais pu avoir les points.
Voilà, où j'aurais pu du coup, en principe normalement, où je marquais quand même des gros points, et donc potentiellement gagner le gros globe de cristal. Mais bah en fait j'en ai pas eu l'occasion. Ça s'est arrêté là, et si ça s'arrêtait le week-end d'avant, bah je gagnais le Road Globe de Cristal. Et si ça s'arrêtait avant le week-end de vitesse et qu'on avait la parité totale. Finalement, bon, bah, ça s'est passé comme ça. De toute façon, c'était un moment où personne ne maîtrisait plus rien. Et les gouvernements répondaient beaucoup, finalement, à l'actualité. C'est-à-dire que personne savait vraiment à quelle sauce on allait être mangé à ce moment-là. Et le gouvernement y compris. Et donc, c'était un moment hyper critique pour tout le monde. Donc, il fallait faire des choix. Et donc, je remets pas du tout ce choix bien en question.
Moi, c'est vrai que ça se ressent dans tes mots que t'es vite passé à autre chose, quoi.
T'aurais pu
être rancunier.
Voilà, mon but, c'était pas du tout mon but d'être enfin, j'ai pas voulu être rancunier. J'ai compris aussi la situation et que ça dépassait un peu ce que tout le monde avait connu, quoi. Certes, ça m'a pas souri du tout, mais bon, bah, c'est comme ça, quoi. Il y a un moment, je suis vite passé à autre chose, ouais, exactement. Ouais. Puis il y a eu ce confinement, on était à Courchevel, moi je trouvais que c'était plutôt chouette, on a passé un bon confinement, après bon, faut quand même être honnête, on était à la montagne, on pouvait plus facilement sortir, en plus de ça, à la montagne, il y avait personne, quoi, c'est-à-dire que...
on va pas te contrôler ton passe sanitaire.
D'une, il y avait personne. De deux, il y avait automatiquement un peu moins de contrôle. Mais l'espace était suffisant aussi. Donc, du coup, on a quand même pu un peu profiter. On était à l'hôtel, dans l'hôtel familial, parce qu'on a un hôtel dans la famille à Courchevel. Et puis après, on a passé 2 mois. Moi, le deuxième mois, j'ai rattaqué tout doucement un peu l'entraînement, histoire de faire un peu quelque chose, trouver aussi un peu un objectif. Pendant ce confinement, parce que c'est vrai que sinon les 2 mois pouvaient être un peu longs. Et puis après, on est sorti et il y a eu la magnifique saison 2020-2021 où j'ai gagné du coup le Gros Globe. Après ça, ça a été un peu plus compliqué. C'est-à-dire que je gagne ce Gros Globe qui était un objectif qui était pour moi relativement important dans ma carrière, où j'avais beaucoup travaillé, où j'avais annoncé relativement jeune que j'avais cette volonté, ambition, de pouvoir et ambition d'y arriver. Donc derrière, il a fallu travailler pendant quelques années pour l'obtenir, et je pense qu'après j'ai pas pris assez de temps. C'est-à-dire que j'ai pas laissé. Il y avait la saison olympique, donc il y avait l'année qu'on vient de passer, et avec donc du coup un objectif quand même important là aussi. Et où du coup, tout de suite, je me suis un peu vite replongé dans le bain, quoi. Mais j'ai pas pris assez de temps pour calmer tout ça, pour prendre du recul, pour analyser toute la situation et laisser retomber aussi un peu toute la pression et puis toute l'euphorie et tout ce qui allait avec, quoi. Résultat des courses, je me suis retrouvé dans une saison où j'étais un peu spectateur, quoi. J'avais jamais
pas fait de plaisir en 6 ans. Je me suis dit que t'étais pas. T'as pas kiffé, quoi. T'as pas kiffé ta saison.
Non, c'est exactement ça. J'ai l'impression que j'étais un peu spectateur de moi-même. J'étais pas l'acteur, mais c'est un peu spectateur. En plus de ça, j'avais du mal un peu à me projeter. J'avais du mal à savoir ce que serait le Alexis Pinturo de 2023, quoi, ou le Alexis Pinturo de 2022 même. Donc j'avais du mal à me projeter à 1-2 ans, savoir ce que je voulais faire, ce que je voulais me fixer comme nouvel objectif, etc. Et même si, bien entendu, il y avait ces jeux, donc ça coulait un peu de source de dire oui, bah il y a les jeux, j'ai envie d'y arriver aux jeux. Mais en fait, ces choses-là, faut qu'elles viennent naturellement. Et quand on provoque un peu les choses, et c'est ce qui s'est un peu passé, c'est que du coup, j'ai voulu provoquer un peu les choses parce que il y avait cet objectif des Jeux Olympiques, tout en sachant que mon corps, en fait, il n'avait pas assimilé. Tout ça, et il avait pas pris le temps de descendre d'un étage et de relâcher un peu tout ça pour fixer finalement naturellement des nouveaux objectifs et que les choses se décantent d'elles-mêmes. Donc résultat des courses, il y a eu cette saison un peu délicate, donc cette année 2021-2022 avec les jeux qui ont été pour moi un échec, avec une 5e place au géant, mais aussi dans d'autres disciplines où j'ai été encore moins bon. Et résultat des courses, les jeux ont été d'une claque, mais m'ont permis aussi de passer d'une certaine manière à autre chose. Et à prendre ce temps, quoi. Temps que j'avais pas pris, à relâcher un peu tout ça, et l'année 2020-2021, assimiler ce que j'avais pu faire jusqu'à maintenant, à me fixer de nouveaux objectifs, à avoir de nouveau une perception ou une image un peu plus claire de ce que je voulais faire à l'avenir, de me projeter plus facilement dans le futur. Et le livre m'a aussi beaucoup aidé. Ouais, parce qu'on,
comment c'est venu du coup ce projet de livre?
Alors il est. Il...
T'en avais envie? C'était un truc que t'avais envie de faire?
Au début, je me souviens. J'ai eu des sollicitations il y a plusieurs années et moi je disais à mon entourage pour le moment ça me captive pas plus que ça, on verra plus tard. J'estimais que ce sera plus quand je clôture un chapitre de ma vie et donc le ski que peut-être j'écrirai un livre et que pour partager ce que j'ai pu vivre. Et puis en fait j'ai trouvé que le chapitre de ma vie je devais clôturer déjà un chapitre de ma vie quoi. C'est-à-dire ça s'est imposé à moi plutôt que ce que je pensais et ce livre m'a aidé je dirais à clôturer ce chapitre de ma vie et en même temps partager certaines choses auprès d'un public qui aujourd'hui a du mal à avoir beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments sur notre sport. Il est assez privé, assez discret dans le milieu médiatique et aussi dans le milieu des sports parce que on souffre d'un manque de médiatisation et parce que la Fédération internationale de ski n'a pas le pouvoir sur ses droits télé.
Ouais.
Il faut savoir qu'ils sont sous-traités. Donc la Fédération internationale a revendu ses droits à un producteur qui revend ses droits ensuite
au diffuseur.
Ouais. Résultat des courses, le but du producteur c'est de faire de l'argent. Donc lui, il vend au plus offrant et au plus cher, quoi.
Ouais.
Donc ce qui fait que des petits marchés comme la France, ils payent pas le prix et donc on se retrouve sur des petites chaînes Eurosport grâce à Eurosport Deutschland. Donc d'Allemagne, par rapport à Eurosport France, on se retrouve sur Eurosport grâce à Eurosport Allemagne.
Okay.
Donc donc c'est ça la difficulté et ce serait bien justement par rapport au livre de pouvoir expliquer certaines choses et c'est ce que j'ai voulu faire aussi. Donc ça avait un double intérêt de pouvoir me livrer sur notre sport, savoir expliquer ce qu'on vit et en même temps tourner un chapitre de ma vie. Ouais.
Ok. C'est quoi le message que tu as envie de faire passer du coup au-delà de ça moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire le livre donc franchement j'encourage les auditeurs à aller en librairie et aller le commander au plus vite parce que ça m'a permis de te découvrir vraiment autrement, tu vois, avec des choses que je connaissais pas de toi, de et voilà la façon avec laquelle t'as affronté certains événements, tu vois.
C'était l'objectif, essayer d'échanger sur ce que je peux être, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui croient que je suis assez inaccessible. Alors c'est souvent le cas quand un athlète est assez performant, on peut croire que
durant les périodes
ces personnes sont différentes. En fait, non, et du coup on peut plus facilement nous placer sur un piédestal ou s'imaginer qu'on vit différemment. En fait, pas du tout. On est les mêmes personnes. On est comme vous et moi, finalement. Et on a deux bras, deux jambes. Mais c'est juste qu'on a beaucoup pratiqué pour arriver là où on en est, quoi, grosso modo. Et donc, je voulais un peu aussi vulgariser ce que je pouvais être ou représenter comme image et faire passer le message grâce à ce livre de ce que je suis réellement, quoi.
Ok. Bon écoute, super cool. J'espère que ça sera un succès. J'en doute pas. Je pense que tous les fans de ski alpin iront et même au-delà. Il y a bien plus. Donc voilà. Moi, comme je te le dis, c'est sincère. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Donc je le recommande aux auditeurs. Le temps tourne et j'avais promis de te libérer pas trop tard. Et du coup, j'ai une toute dernière question. C'est un peu comme un passage de flambeau, mais c'est plutôt un passage de micro. C'est de savoir. Je demande à tous les invités de me recommander une femme et un homme à aller interviewer, une athlète femme, un athlète homme, qui justement pourrait me raconter, qui pourrait parler un peu de préparation physique, un peu de préparation mentale, qui aurait des choses intéressantes à dire. Et je demande à chaque fois un homme et une femme pour respecter la parité sur le podcast.
Femme, je dirais Gladys, que nous okay. Peut-être t'as déjà fait, non,
pas encore.
Gladys. Je pense que c'est une super fille.
Ok.
Et garçon, je dirais Quartararo.
Ok.
Voilà.
Bon écoute, cool. C'est bien noté. Écoute, je me suis régalé. Merci beaucoup Alexis pour.
Merci à toi.
Pour cette heure. J'espère que ça t'a plu comme format.
Ouais, c'était super. Ouais.
Bon cool. Ça me fait plaisir pour quelqu'un qui a l'habitude de la presse. Et puis je t'embête pas plus et je te dis à très vite. Parce que comme on dit chez moi, il y a que les montagnes qui ne se recroisent pas.
À bientôt. Et puis surtout, oubliez pas de vous faire plaisir dans ce que vous faites.
Exactement. Salut.
Ciao.
Trop bien.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.